Chapitre 5. Les prophètes hébraïques et la littérature du Proche-Orient ancien. Elias Brasil de Souza. De nombreux spécialistes s'intéressent aux liens qui existent entre la Bible et la littérature du Proche-Orient ancien, ce qui contribue à une meilleure compréhension du monde biblique. Différentes approches et perspectives sont adoptées concernant les ressources bibliques et non bibliques. Certaines études montrent que la Bible est essentiellement le reflet du contexte historique dans lequel elle a été écrite. D'autres, en revanche, proposent de nombreux arguments montrant que la Bible est un corpus littéraire différent des œuvres de la même époque, malgré des similarités. Cette étude se concentre sur les parties prophétiques de l'Ancien Testament dans le but d'identifier de possibles allusions à des textes non bibliques. Une étude approfondie du corpus prophétique met en évidence le fait que les prophètes connaissaient bien les nations environnantes et produisaient des œuvres littéraires en lien, et souvent en opposition, avec leur culture. Cette étude comporte trois parties. La première présente certains sujets et expressions. La deuxième, certains thèmes théologiques. Et la troisième, étudie les implications herméneutiques et théologiques de ces parallèles. Allusions littéraires. Cette partie montre de quelle façon certaines expressions et images utilisées dans les oracles prophétiques peuvent évoquer les termes de la propagande royale du Proche-Orient, les traités et les textes ougaritiques. La propagande royale. Le texte d'Ésaïe 1, verset 7, annonçait la destruction du pays en utilisant un langage similaire au langage employé dans les annales royales du Proche-Orient ancien. Votre pays est dévasté, vos villes sont incendiées, des étrangers dévorent votre terre devant vous. C'est une dévastation comme une destruction d'étrangers. Bien qu'il y ait d'autres annonces de destruction dans l'Ancien Testament, la séquence des lèmes, dévasté, incendié, dévore, ne se retrouve que dans ce texte. Étonnamment, une phraséologie similaire apparaît dans des inscriptions royales assyriennes de Tiglath-Pileser Ier, 1114 à 1076 avant Jésus-Christ, à Sargon II, 721 à 705 avant Jésus-Christ. Un exemple particulier trouvé dans les annales d'Assurnasirpal II, 883 à 859 avant Jésus-Christ, dans lesquels le roi se réjouit de la destruction de Caprabi, mérite notre attention. « J'ai détruit la ville, je l'ai incendiée et je l'ai consumée. » Il convient de noter que la séquence des mots employés ressemble à celle d'Ésaïe 1, verset 7. De la même façon, Ésaïe cite le roi assyrien pour préciser le but de sa conquête. « J'ai bousculé les frontières des peuples, je les ai dépouillés de leurs trésors. » Ésaïe 10, verset 13. Certes, ce type de phrase apparaît dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Cependant, dans tous les autres cas, il s'agit d'une allusion au texte de Deutéronome 19, verset 14, voire Deutéronome 27, verset 17, qui interdit aux individus d'étendre leur terre en repoussant les bornes de leurs voisins. Seul le texte d'Ésaïe 10, verset 13, évoque l'expansion territoriale d'un empire. Ainsi, il semble raisonnable de supposer qu'Ésaïe connaissait des expressions telles que celle-ci, qui provient d'une inscription de Tiglath-Pileser III, 745 à 727 avant Jésus-Christ, « J'ai dévasté, littéralement déchiré, Sarabani et Bitsaali jusqu'à leurs limites les plus lointaines. J'ai amené ces terres au sein du territoire assyrien. » Un autre passage utilise les métaphores des inondations et de la gloire suprême pour décrire le roi assyrien affrontant Juda. Voilà pourquoi le Seigneur fait monter contre eux les eaux puissantes, les grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Partout il débordera de son lit, et il s'en ira par-dessus toutes ses rives. Il balayera Juda, il déferlera et submergera, il montera jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, Immanuel. Ésaïe 8, verset 7-8. La métaphore de l'eau décrivant l'invasion de l'armée et le thème de la gloire du roi étranger évoque des concepts similaires que l'on trouve dans certaines inscriptions assyriennes. Concernant l'image de l'eau, voici ce que disait Salmanasar III, 858 à 824 avant Jésus-Christ. « J'ai fait survenir sur eux des eaux dévastatrices. Je les ai entassées dans des fossés et j'ai rempli les plaines des cadavres de leurs guerriers. » Ésaïe a rendu ces images encore plus explicites en y associant l'Euphrate, le fleuve le plus important d'Assyrie. Au sujet de la notion de gloire, plusieurs documents mentionnent la gloire et la majesté du monarque assyrien. Assurnasirpal, 883 à 859 avant Jésus-Christ, utilisait l'expression « roi de gloire » en parlant de lui-même. Et Salmanazar III, 858 à 824 avant Jésus-Christ, affirma avoir écrit sur une montagne « la gloire de ma puissance, les triomphes, littéralement les voies de ma puissance ». Ainsi, en mentionnant l'eau et la gloire pour décrire la puissance du roi assyrien, le prophète avait peut-être à l'esprit le langage et les images des inscriptions assyriennes. Ésaïe décrit de quelle façon le roi assyrien se percevait lui-même en utilisant l'image d'un monarque se dirigeant vers l'ouest et gravissant une montagne pour couper des arbres du Liban dont le bois était très prisé. Cette description ne fait pas uniquement référence à la construction de bâtiments. En effet, le thème du « voyage héroïque » évoque la puissance militaire du roi, que mentionne Ésaïe. « Par l'intermédiaire de tes gens, tu as outragé le Seigneur, et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, moi, je suis monté tout en haut des montagnes, au plus profond du Liban. Je coupe les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteins sa dernière cime, ses plus épaisses forêts. » Ésaïe 37, verset 24. Il faut noter qu'une inscription néo-assyrienne attribuée à Salmanazar III, 858 à 824 avant Jésus-Christ, comporte de nombreux points communs avec ce texte. « J'ai gravi le mont Amanus et coupé des branches de cèdre et de genévrier. Je me suis rendu au mont Atalur où se trouve l'image d'Anum Irb, et j'ai érigé mon image avec son image. » Dans un autre texte, le prophète déclare au sujet de Yahvé ce que le roi assyrien disait de lui-même. Dans Ésaïe 41, verset 19, le Seigneur promet « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. » Ainsi, le roi assyrien pouvait affirmer avoir la puissance d'atteindre le sommet des montagnes du Liban et de couper les arbres. Mais ce que le Seigneur affirmait pouvoir faire dépassait de loin les capacités du roi païen. Le Seigneur, le Dieu créateur, pouvait faire croître des cèdres et d'autres arbres dans le désert afin que les nations comprennent ceci. Afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous ensemble que c'est la main du Seigneur qui a fait tout cela, que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Ésaïe 41, verset 20. Ainsi, bien que le thème du voyage héroïque fasse partie de la tradition mésopotamienne et se trouve dans d'autres passages du corpus prophétique, Habacuc 2, verset 17, l'évocation de ce sujet dans Ésaïe, qui semble être le premier à le mentionner dans l'Ancien Testament, indique peut-être qu'il l'avait découvert grâce à des ressources néo-assyriennes. De plus, comme nous l'avons souligné, le même thème apparaît dans Ésaïe pour souligner la puissance incomparable de Dieu qui peut faire bien plus qu'un roi païen. Ésaïe annonça également que les nations ramèneraient les exilés en offrande, mina, au Seigneur, sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sacrée, à Jérusalem. Ésaïe 66, verset 20. Cette liste des chevaux, des chars, des chariots, des mulets et des dromadaires qui évoque une offrande faite au Seigneur fait écho à une autre liste dans laquelle un monarque mentionne les présents offerts par des nations étrangères. Beaucoup de ces listes viennent des Assyriens, comme le montre une inscription mentionnant les chevaux, les mulets, les chameaux de Bactriane, le bétail et les moutons, offerts régulièrement à Tiglath-Pileser III, 745 à 727, à un rythme annuel dans le pays de l'Assyrie. Il faut également mentionner une stèle célébrant les exploits militaires de Thoutmôsis III qui évoque les présents apportés de Canaan au pharaon. Alors ce faible ennemi et les chefs qui étaient avec lui firent envoyer tous leurs enfants à notre majesté avec des dons et des présents d'or et d'argent, tous leurs chevaux, de magnifiques chariots d'or et d'argent, certains chariots qui n'étaient pas décorés, leurs armures de mailles, leurs arcs, leurs flèches et toutes leurs armes de combat. Par conséquent, concernant le texte d'Ésaïe 66, verset 20, Nous pouvons suggérer que le prophète rédigea sa phrase en s'inspirant de listes de présents dans lesquelles le roi célébrait les exploits de ses campagnes militaires. Le fait d'utiliser ce style littéraire permettait de toucher le public avec une puissance rhétorique indéniable. De la même façon que les rois humains imposaient à leurs ennemis vaincus de leur offrir des présents, de la même façon, le Seigneur vaincrait ses ennemis et les forcerait à ramener les captifs dans leur pays en offrande. L'image du lion. L'image du lion fait partie de la propagande royale, mais mérite un paragraphe particulier, étant donné sa place dans la littérature prophétique. Il existe des similarités frappantes entre certains textes prophétiques et des documents assyriens et égyptiens, voir Ésaïe 15, verset 9, Jérémie 2, verset 15, 4, verset 7, 50, verset 17, dans lesquels le lion est une image stéréotypée. Les rois égyptiens, babyloniens et assyriens se décrivaient souvent comme des lions et se vantaient fréquemment de pratiquer la chasse aux lions, comme en témoignent les décorations de nombreux palais et certains documents royaux. Nebmahatré, 680 à 669 avant Jésus-Christ, roi de la Haute et de la Basse Égypte, affirmait être le lion puissant, bien-aimé d'Amun. Assaradon, 680 à 669 avant Jésus-Christ, roi d'Assyrie, affirmait « Je suis devenu enragé comme un lion, mes émotions étaient exacerbées. J'ai frappé dans mes mains pour pouvoir exercer la fonction de roi dans la maison de mon père. » Et Assurbanipal en vint à être considéré comme un bienfaiteur de l'humanité en raison de sa capacité à tuer des lions. Des prophètes mentionnaient habilement les lions dans leurs messages afin d'en souligner la force rhétorique. Dans certains cas, ces messages comportaient simplement une image stéréotypée du lion qui était courante dans le Proche-Orient ancien. Cependant, dans d'autres cas, l'image du lion était une allusion très claire à certains rois du Proche-Orient décrits comme des lions puissants. Il semble qu'Osé, par exemple, connaissait bien l'image du lion telle qu'elle était utilisée par les rois néo-assyriens. Dans ses déclarations adressées à Israël, le prophète décrit le Seigneur comme un lion prêt à déchirer sa proie. « Car je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un jeune lion pour la maison de Juda. Moi, moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et personne ne délivrera. Je m'en irai, je reviendrai à mon lieu, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur tort et me recherchent. Dans la détresse, ils auront recours à moi. » Osée 5, versets 14, 15. À première vue, Osée semble simplement utiliser un langage stéréotypé pour décrire le jugement imminent de Dieu sur Israël. Cependant, le fait que Dieu utilise les Assyriens pour exécuter son jugement, voir Osée 5, verset 13, 7, verset 11, 8, verset 9, 9, verset 13, 10, verset 6, 11, verset 5, 11, 12, verset 1, 14, verset 3, indique qu'Osée faisait probablement une allusion ironique à quelque chose que tout le monde savait, à savoir que les Assyriens décrivaient souvent leurs exploits militaires par l'image d'un lion attaquant sa proie. Il est intéressant de souligner que les rois assyriens évoqués par les oracles prophétiques d'Osée, Tiglath-Pileser III, Salmanasar V et Sargon II, se décrivaient comme des lions dans leurs annales royales. Avec une pointe d'ironie, le prophète annonce que le jugement sera prononcé par Dieu, le lion suprême qui utilisera alors ses lions assyriens pour mettre son jugement à exécution. Le prophète Nahum utilise à plusieurs reprises l'image du lion pour annoncer la fin de l'empire assyrien. Où en est ce repère de lion, ce domaine des jeunes lions, que parcourait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler ? Le lion qui déchiquette une proie pour ses petits, qui étrangle pour ses lionnes, remplissait de proie ses antres, de dépouilles ses repères. « Je m'oppose à toi, déclaration du Seigneur, des armées. Je réduirai ses chars en fumée. L'épée dévorera tes jeunes lions. Je retrancherai ta proie du pays, et on n'entendra plus tes messagers. » Nahum 2, versets 12 à 14. Dans cette péricope, le prophète décrit le Seigneur comme un chasseur de lions. Ironiquement, le Seigneur lui-même, le chasseur de lions par excellence, allait pourchasser les Assyriens et leurs rois qui se décrivaient eux-mêmes comme des lions royaux. Le contexte historique et l'objectif du livre de Nahum suggèrent que le prophète ait pu faire des allusions délibérées à certaines inscriptions assyriennes. Il faut souligner que Nahum était très probablement contemporain d'Assurbanipal, 668 à 627, un roi qui se décrivait souvent comme un chasseur de lions. De plus, le Seigneur appela Nahum à annoncer la chute de l'Empire assyrien. Ainsi, il n'est pas surprenant que, pour transmettre son message de façon plus efficace, Nahum ait utilisé la propagande royale assyrienne de façon rhétorique pour annoncer la défaite de ceux qui se considéraient comme les plus grands chasseurs. Dans un oracle prononcé contre l'Égypte, Ézéchiel 32, versets 1 à 15, le prophète condamne le pharaon en disant « Tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations », verset 2. Les termes employés montrent qu'Ézéchiel savait que l'image du lion était utilisée en Égypte pour mettre en évidence la puissance et la majesté du pharaon. Mais Ézéchiel utilise ici cette image pour décrire la faiblesse et non le pouvoir du pharaon. En effet, il apparaît comme un crocodile répugnant sur le point d'être capturé et mis à mort, plutôt que comme un lion majestueux prêt à dévorer sa proie. « Tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations. » Tu étais comme un dragon dans les mers, tu jaillissais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur Dieu. J'étendrai sur toi mon filet, dans l'assemblée d'une multitude de peuples, et ils te tireront dans ma nasse. Versets 2 et 3. Ainsi, l'espoir de Juda concernant un éventuel soutien de l'Égypte face aux Babyloniens était sans fondement. Malgré son désir d'être un lion, le pharaon allait être pourchassé comme un crocodile. Les traités. Les points communs que l'on peut observer entre les traités de malédiction des Assyriens et les annonces de jugement faites par les prophètes montrent également les liens qui existent entre la littérature prophétique et les textes du Proche-Orient. Certaines études affirment que les prophètes s'inspirèrent de ces traités de malédiction pour prononcer des paroles de jugement. Les malédictions contre l'Assyrie annoncées par Nahum révèlent notamment des parallèles significatifs avec les traités néo-assyriens contenant également des malédictions. Ces documents diffèrent d'autres sources non bibliques dans la mesure où ils contiennent des malédictions longues, spécifiques, explicites et bien particulières. Les rois assyriens adressant leurs messages diplomatiques non seulement aux rois mais aussi à la population, voire 2e roi 18, versets 26 à 36, on peut supposer que le prophète connaissait ses documents et ses traditions, et qu'il s'en inspira intentionnellement dans le but d'exprimer son hostilité à l'ennemi assyrien. À ce propos, les parallèles suivants entre Nahum et les traités des Aradons méritent notre attention. 1. Malédiction des ténèbres. Nahum 1, versets 8 et 422 à 424. 2. Destruction de la descendance et du nom. Nahum 1, versets 14 et 543-544. 3. Destruction des chariots. Nahum 2, versets 13 et 612 à 616. 4. Châtiment des prostituées. Nahum 3, versets 5 à 7 et 617. 5. Blessures incurables et maladies mortelles. Nahum 3, versets 19 et 472 à 477. 6. Inondations. Nahum 1, versets 8 et 442. 7. Assèchement des sources d'eau. Nahum 1, versets 4 et 440-441. 8. Changement de la couleur de peau. Nahum 2, versets 10 et 585 à 587. 9. Impossibilité de parler. Nahum 2, versets 13 et 437 à 439. 10. Vengeance. Nahum 1, versets 3 et 576, 577, 582 à 584. De plus, la malédiction selon laquelle les guerriers agiraient comme des femmes craintives, Nahum 3, verset 13, et la malédiction des criquets, versets 15 à 17, bien qu'absentes du traité des Aradons, sont attestées dans d'autres documents de l'époque néo-assyrienne.
Une question se pose. Nahum fit-il consciemment allusion à des sources non bibliques ou employa-t-il le langage et les images de la littérature du Proche-Orient sans prendre en compte certains documents ou certaines traditions en particulier ? On ne peut répondre à cette question avec certitude, mais plusieurs éléments semblent montrer que Nahum fit délibérément allusion à ces malédictions afin de produire un effet rhétorique. Tout d'abord, il convient de souligner que le genre littéraire employé est similaire, dans la mesure où les parallèles entre Nahum et les documents non bibliques concernent des malédictions. Deuxièmement, même si tous les thèmes pris séparément peuvent avoir des points communs avec d'autres documents du Proche-Orient, le nombre de parallèles entre Nahum et les traités des Aradons est plus important qu'avec n'importe quel autre document, et cela ne peut être une coïncidence. Troisièmement, étant donné que Nahum annonça la chute de l'Empire assyrien, il utilisa peut-être délibérément des images et un langage propres aux Assyriens afin d'accentuer la force rhétorique de son message, mettant l'accent sur le fait que les malédictions prononcées par les Assyriens sur Juda seraient précisément les jugements que Yahvé prononcerait sur les Assyriens. Littérature ougaritique. On observe un parallèle significatif entre un document non biblique et le texte d'Ésaïe 27, verset 1, une péricope décrivant le jugement eschatologique de Dieu et la victoire définitive sur les forces du mal. En ce jour-là, le Seigneur fera rendre des comptes, avec son épée acérée, grande et puissante, à Léviathan, Liouiathan, le serpent fuyard, Baria, à Léviathan, Liouiathan, le serpent tortueux, Culten, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Dans le cadre de ce chapitre, il n'est pas possible d'étudier ce verset en détail, mais nous voulons mettre en évidence les parallèles avec un texte ougaritique dans lequel Mo mentionne une victoire antérieure de Baal sur Litan ou Léviathan. Le texte ougaritique dit ceci. « Quand tu as tué Litan, LTN, le serpent fuyard, BRH, tu as annihilé le serpent tortueux, QLTN, le potentat à sept têtes. » Ces deux textes emploient un vocabulaire si spécifique que le passage d'Ésaïe semble être une citation virtuelle du texte ougaritique. Cependant, il ne peut être question d'un emprunt littéraire, étant donné l'intervalle de temps séparant le texte ougaritique, vers 1400 à 1200 avant Jésus-Christ, et le passage d'Ésaïe, vers 850 avant Jésus-Christ. Mais les points communs méritent une explication qui sera développée dans la dernière partie de cette étude. Cependant, on peut déjà affirmer que le prophète connaissait ces images et savait que le serpent, ou Léviathan en l'occurrence, serait finalement détruit. Ainsi, le texte ougaritique exprime cette idée en des termes liés à la mythologie ou au polythéisme, alors qu'Ésaïe développe cette image dans le contexte de la religion monothéiste. Nous pouvons prendre un dernier exemple tiré du livre d'Osée, où il apparaît que le prophète emploie des images et des expressions de la littérature ougaritique pour exprimer des avertissements concernant l'apostasie du peuple de Dieu qui s'était notamment tourné vers Baal et adorait ce dieu païen. Voir Osée 2, verset 8, 13, verset 1. En effet, Osée mentionne la mort et la résurrection d'Israël d'une façon qui rappelle ce que l'on sait de Baal grâce au texte ougaritique. Étudions quelques passages. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Osée 6, verset 2. Ensuite, Osée rapporta ces paroles de Dieu. « Je les libérerai du séjour des morts, je les reprendrai à la mort. Mort, où sont tes pestes ? Séjour des morts, où sont tes épidémies ? La pitié est cachée à mes regards. » Osée 13, verset 14. Et le verset suivant décrit l'assèchement des sources d'eau. Verset 15. Il est frappant de noter que les images de la mort, de la résurrection et de la sécheresse évoquent la description de Baal dans les textes ougaritiques. Baal mourait, ce qui entraînait la sécheresse, et il ressuscitait chaque année au printemps. Ces images se retrouvent dans la façon dont Osée décrit le destin d'Israël. Ces points communs peuvent indiquer que le prophète employa ce langage pour dénoncer le culte de Baal. Parce que le peuple s'était tourné vers Baal, il connaîtrait la même fin que lui. Le fait que le peuple ait adopté le culte de Baal devait produire la mort au lieu de la vie, la sécheresse au lieu de la fertilité.
Cependant, en dépit des péchés du peuple, Dieu avait un message d'espoir. S'il se repentait, il pourrait faire pour lui ce que Baal ne pouvait pas faire. Il le relèverait de la mort et lui donnerait une vie nouvelle. Allusion théologique. Les parallèles entre les prophètes d'Israël et la littérature du Proche-Orient ne se réduisent pas à de simples expressions ou images, mais concernent également des thèmes théologiques majeurs comme le jour du Seigneur, la fin du mal, la résurrection, l'espérance messianique, la fin de la mort et le banquet eschatologique. Le jour du Seigneur. L'idée qu'un jour Dieu jugera les nations, mettra fin au mal et inaugurera une nouvelle ère de paix et de prospérité se retrouve environ 200 fois dans les textes des prophètes. Amos, le premier prophète à mentionner cette idée, décrit le jour du Seigneur comme un jour de jugement pour le peuple de Dieu. Amos 5, versets 18 à 20, voir Exode 32, verset 34. Certains prophètes insistent sur le fait que le jour du Seigneur sera un châtiment contre les nations. Par exemple, Ésaïe 13, versets 6 à 13, 24, versets 21, Jérémie 25, versets 33, Abdias, versets 15, 16. Alors que d'autres considèrent ce jour comme un nouvel exode, par exemple, Joël 2, verset 20, ou un jour où Dieu redonnera la prospérité à son peuple et inaugurera une ère de bonheur et de bénédiction abondante dans son royaume. Ésaïe 2, versets 2 à 4, 29, versets 18, 19, 11, versets 10, Michée 4, versets 6, 7. Au sujet de l'origine du jour du Seigneur, les théologiens proposent différentes explications, comme la théophanie, la promulgation de traités contenant des malédictions, des intronisations, des guerres saintes ou diverses associations de ces événements. En dépit de certaines tentatives, aucun consensus n'a été trouvé. Ainsi, la question de l'origine de cette expression n'est pas réglée. Pourtant, nous pouvons nous intéresser à certains textes non bibliques dans lesquels apparaît un thème similaire. Un certain nombre de textes sumériens, hittites, égyptiens et sémitiques, de divers lieux et de diverses époques, développent l'idée qu'un grand roi ou souverain pourrait entreprendre avec succès une campagne militaire ou une guerre de conquête en une seule journée. Une telle action militaire résulterait en un expansionnisme territorial, mais pourrait aussi impliquer une vengeance contre les nations ennemies. Quelques références peuvent suffire à montrer que cette idée était présente dans la littérature non biblique. Dans l'autobiographie d'Idrimi, 15e siècle avant Jésus-Christ, le roi Dalalakj affirme « En un jour, comme un seul homme, Nia, Amae, Moukis et Alala, ma ville, se sont tournés vers moi. Mes alliés ont entendu et se sont présentés à moi. Quand ils ont établi un traité avec moi, je les ai considérés comme mes alliés. » Un texte hittite connu sous le titre « Les actions de Supiluliuma, 14e siècle avant Jésus-Christ » dit ceci. « Il avait fait un siège de 7 jours. Le 8e jour, il a combattu pendant une journée et il l'a pris lors d'une terrible bataille le 8e jour. » En un jour. Dans une lettre adressée au pharaon à Amarna, Rib-Hadda, roi Byblos, demande ceci. « Envoyez les archers du roi et le pays entier sera pris en un jour. » Sur une stèle, on lit cette inscription de Séti Ier, environ 1318 à 1301 avant Jésus-Christ, concernant sa lutte contre une coalition de princes asiatiques. « Quand une journée fut passée, ils furent renversés pour la gloire de sa majesté, le roi de la Haute et de la Basse Égypte, Men-Maat-Ré, le fils de Ré, Séti-Mer-Nepta. » Sur la stèle de Mécha, environ 830 avant Jésus-Christ, le roi Mécha se vante ainsi. « Et Kémosh me dit, « Pars, prends Nébo à Israël. Je suis parti dans la nuit, et j'ai combattu de l'aube jusqu'à midi, et je l'ai pris. J'ai tué toute la population. » L'inscription de Kuntilet Ajrud 18 fait référence à la disparition des montagnes et des sommets et se termine ainsi. « Pour celui qui est béni du Seigneur, le jour de la bataille au nom de Dieu, le jour de la bataille. » En dépit de certaines similarités, certaines différences essentielles émergent. Tout d'abord, dans les écrits des prophètes, le jour du Seigneur évoque l'intervention de Dieu dans l'histoire, alors que dans la littérature proche orientale, le jour est associé aux exploits d'un roi humain. Deuxièmement, les prophètes se concentrent sur l'imminence du jour du Seigneur, alors que les textes non bibliques ont tendance à insister sur la durée de cette journée, en affirmant que le roi pourrait écraser ses ennemis en un jour. Troisièmement, les prophètes évoquent cette idée grâce à des oracles prophétiques annonçant un événement futur, alors que les textes non bibliques utilisent différents genres, à savoir des textes mythologiques ou des textes de propagande royale évoquant un événement passé. Il n'en demeure pas moins que l'on y retrouve un concept similaire à celui des textes prophétiques. Cela a pu servir de cadre pour la proclamation du message prophétique concernant le jour du Seigneur. Les rois du Proche-Orient ancien se vantaient d'avoir remporté des victoires sur leurs ennemis en une journée, alors que les prophètes annonçaient que Dieu lui-même interviendrait dans l'histoire pour vaincre le mal et établir son royaume éternel, le jour du Seigneur. La fin du mal. Les prophètes donnent généralement une image idyllique du paradis retrouvé où le mal ne régnera plus et où les êtres humains vivront en paix les uns avec les autres et en harmonie avec la nature. Ésaïe nous propose cette description. Le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau, le taurillon, le jeune lion et les bêtes grasses seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de la spique. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, versets 6 à 9, voir Ésaïe 2, versets 4, 65, versets 25, Ézéchiel 34, versets 25, Osée 2, versets 18. Il est intéressant de noter que le mythe sumérien d'Enki et Ninhursag décrit une situation dans laquelle le lion ne tue pas et le loup n'arrache pas l'agneau. Un autre texte sumérien, Emerkar et le seigneur d'Arata, exprime une idée similaire. Un jour, il n'y aura plus de serpents ni de scorpions, il n'y aura plus de hyènes ni de lions, il n'y aura plus de chiens sauvages ni de loups. Ainsi, personne ne sera dans la crainte et ne tremblera de peur, car l'homme n'aura plus d'ennemis. Ce jour-là, les terres de Subur et Amasi, ainsi que Sumer, la jumelle, la grande colline, de la puissance du Seigneur, avec Akkad, la colline qui a tout ce qui est nécessaire, et même Martu, au milieu des verts pâturages. Oui, le monde entier composé de gens bien gouvernés pourront parler à Enlil dans une même langue. Ces similarités montrent que les Israélites n'étaient pas les seuls à aspirer à vivre en harmonie avec la nature et leurs semblables dans la paix et en toute sécurité. Cet espoir était aussi entretenu par des poètes et des sages qui n'étaient pas israélites. Ainsi, la singularité de ce thème prophétique ne réside pas dans sa nouveauté, mais dans son lien avec le monothéisme biblique et l'histoire du salut telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Dans les textes proche-orientaux, la notion de lieu de paix apparaît essentiellement dans les textes mythologiques, qui ne précisent pas comment, ni par qui, ce paradis peut survenir, alors que les prophètes évoquent la notion de fin du mal et de restauration de toutes choses dans le contexte du plan de Dieu pour restaurer la création et faire en sorte qu'elle retrouve son état initial. La résurrection. La résurrection des morts est l'un des thèmes culminants des prophéties eschatologiques. Bien que ce ne soit pas un sujet très présent dans l'Ancien Testament, des passages comme celui d'Ésaïe 26, verset 19, Osée 62, Ézéchiel 37, verset 1 à 14 et Daniel 12, verset 2, 13 montrent clairement que la résurrection faisait partie des messages prophétiques. Même si dans certains cas, la résurrection est synonyme de restauration nationale plutôt que de résurrection individuelle des morts, les prophètes déclarèrent que Dieu avait le pouvoir de ressusciter les morts et donc de vaincre la mort. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient envisager la résurrection à la fois de façon nationale et individuelle. Certains récits des premiers prophètes parlent de résurrection, voir 1er Roi 17, versets 17 à 24, 2e Roi 4, versets 31 à 37, 13, versets 20, 21. Mais nous devons aussi reconnaître que ce concept est également présent dans des textes non bibliques du Proche-Orient ancien et envisager ce sujet dans un contexte plus large. Comme le montre la littérature ougaritique, 1400 à 1200 avant Jésus-Christ, la conviction selon laquelle le dieu Baal était mort et revenu à la vie était répandue en Canaan. D'après des textes sur Baal, celui-ci ressuscita après avoir été tué par Mo, la mort. Un concept similaire existait en Mésopotamie avec la mort et la résurrection de Tammuz / Dumuzi. Dans un fragment de texte d'Ugarite, probablement adapté d'un texte original mésopotamien, une personne déclare « Mes sœurs m'ont aspergé d'une huile précieuse, du pressoir, jusqu'à ce que le Seigneur relève ma tête et me ressuscite des morts, jusqu'à ce que Marduk relève ma tête et me ressuscite des morts. » Les Hittites semblent aussi avoir adopté l'idée qu'un roi pouvait ressusciter, comme l'indiquent des expressions telles que « tu m'as ramené à la vie », qui, même si elles sont figuratives, semblent évoquer une croyance dans la résurrection. De plus, ils pensaient que l'empereur devenait un dieu après sa mort. En Égypte, des idées similaires étaient développées, notamment en lien avec le dieu Osiris. Ainsi, lorsque les prophètes évoquaient l'espérance de la résurrection, ils n'annonçaient pas quelque chose de totalement nouveau, mais ils reprenaient un espoir ancien qu'ils plaçaient dans le cadre de la révélation de Dieu, en prenant en compte l'idée que Dieu est capable de vaincre la mort. Ce n'était pas le cas pour de nombreuses divinités décrites dans les mythes du Proche-Orient ancien. Ces divinités ne pouvaient pas être omnipotentes, puisqu'elles étaient soumises aux forces impersonnelles du cosmos. De plus, certaines divinités pouvaient mourir et renaître en fonction du cycle de la végétation. Enfin, certains textes anciens parlent de la résurrection comme étant essentiellement le privilège des rois et des reines. Peu d'éléments indiquent que des personnes ordinaires pouvaient ressusciter. En revanche, les prophètes présentent la résurrection comme un espoir pour la nation, voir par exemple Ézéchiel 37, ainsi que pour les individus, voir par exemple Daniel 12, verset 2. D'après les témoignages des prophètes, la résurrection et la vie après la mort ne sont pas réservées aux divinités et aux rois, mais c'est une espérance offerte à tous. Espérance messianique. Outre des messages sombres, les prophètes proclamaient aussi des messages d'espoir au sujet d'un futur roi qui apporterait la paix et la justice dans le pays. Basés sur l'alliance davidique, ces oracles prophétiques annonçaient la venue d'un roi juste qui gouvernerait selon la volonté de Dieu. Parmi les nombreux oracles messianiques, par exemple Ésaïe 7, versets 10 à 16, Michée 5, versets 1 à 5, Amos 9, versets 11 à 15, Jérémie 33, versets 14 à 18, Ézéchiel 37, versets 24 à 28, Agée 2, versets 20 à 23, deux peuvent être pris en exemple. Alors, un rameau sortira du tronc de Jessé, un rejeton de ses racines sera fécond. Ésaïe 11, verset 1. Et, les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice. En ces jours, Juda sera sauvé. Israël demeurera en sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera. Adonai Tzidkenu, YHWH, et notre justice. Jérémie 23, versets 5, 6. Ces textes évoquant l'espoir de la venue d'un chef idéal comportent des parallèles intéressants avec la littérature non biblique. Des textes d'Égypte et de Mésopotamie annoncent la venue au pouvoir de rois réussissant à apporter la paix, la justice et la prospérité, même si ces oracles étaient généralement rédigés une fois le roi assis sur le trône afin de légitimer son mode de gouvernement. Quelques extraits suffisent à montrer la teneur de ces textes. La prophétie de Marduk dit ceci. 19. Un roi de Babylone se lèvera. 20. Le merveilleux temple. 21. Ekursagila, il restaurera. 22. Les plans du ciel et de la terre. 23. Il concevra à Ekursagila. 24. Il doublera sa hauteur. Une exemption d'impôt. 25. il décidera pour ma ville de Babylone. 26. Il me guidera jusqu'à Babylone, ma ville. 27. Et il me ramènera à Ekursagila l'Éternel. Le texte A de la prophétie Ex Eventu dit ceci. 2. Un prince se lèvera et exercera la fonction de roi pendant 18 ans. 3. Le pays sera en sécurité, le cœur du pays ira bien, les gens connaîtront la prospérité. 4. Les dieux prendront des décisions pour le pays, les vents seront favorables. 5. Les récoltes de la mer et les récoltes de la terre seront abondantes. 6. Chaque canne et Nisaba seront dans le pays. D'après la prophétie d'Uruk, 16, après lui, un roi, son fils, se lèvera du milieu d'Uruk, et il dirigera les trois quarts du monde. 17. Il exercera son pouvoir et il régnera sur Uruk. Sa dynastie sera établie pour toujours. Comme nous venons de le souligner, des paroles d'espoir concernant un futur roi apparaissent à la fois dans la Bible et dans la littérature non biblique. Souvent contraints de vivre dans des régimes totalitaires, les prophètes bibliques et les sages non bibliques aspiraient à la paix et à la sécurité qui, selon eux, pouvaient devenir réalité grâce à un roi idéal capable de restaurer l'ordre cosmique. Les parallèles tels que celui-ci n'indiquent pas qu'il y ait eu un emprunt d'idées, mais ces thèmes faisaient partie d'un tout dont l'origine remonte peut-être au début de l'histoire de l'humanité. La disparition de la mort. La description de la disparition de la mort dans les livres d'Ésaïe et d'Osée révèle certains parallèles étonnants avec la description de Moth, la mort, dans le cycle ougaritique de Baal. D'après Ésaïe, le Seigneur anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. Ésaïe 25, versets 7, 8. Osée emploie un langage similaire. « Je les libérerai du séjour des morts. Je les reprendrai à la mort. Mort, où sont tes pestes? Séjour des morts, où sont tes épidémies? La pitié est cachée à mes regards. » Osée 13, verset 14. Dans les mythes ougaritiques, Baal est menacé par Moth, la mort. Il entrera en lui, il descendra, dans sa bouche comme une olive rôtie, comme le produit de la terre et le fruit de ses arbres. Baalou le puissant, c'est-à-dire Baal, le craindra. Celui qui chevauche les nuages aura peur de lui. Quelques lignes plus tard, le récit se poursuit et Baal est totalement vaincu par Moth. Baalou, c'est-à-dire Baal, le puissant est mort. Le prince, le maître de la terre, a péri. Les textes bibliques et les textes ougaritiques associent les termes « dévorer » et « avaler » à la mort, ce qui semble indiquer que les prophètes étaient familiarisés avec l'idée de la mort slash Moth qui avalait slash dévorait tout. Il y a cependant une différence notoire entre le texte biblique et le parallèle ougaritique. Dans le mythe ougaritique, Baal est vaincu, est avalé par Moth, la mort, alors que dans la Bible, c'est l'inverse qui se produit. Dieu est celui qui avale la mort pour toujours. Cela semble indiquer que les prophètes bibliques utilisèrent certains éléments de la religion ougaritique comme un moyen rhétorique permettant de mettre en évidence la différence entre le véritable Dieu et Baal. Le banquet eschatologique. Le thème du banquet eschatologique, décrit dans Ésaïe, mérite aussi notre attention. Après avoir établi son pouvoir à Sion, le Seigneur, YHWH, des armées, fera pour tous les peuples, dans cette montagne, un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Ésaïe 25, verset 6. La notion de repas pris sur une montagne, ainsi que la référence aux anciens, Ésaïe 24, verset 23, semble rappeler le repas de l'alliance de Dieu et des 70 anciens d'Israël sur le mont Sinaï, Exode 24, versets 9 à 11. Les textes de Jérémie 51, verset 39, et de Sophonie 1, versets 7 à 9, décrivent aussi le Seigneur donnant un banquet, bien que ce soit dans le cadre du jugement envers les méchants. Mais dans le monde du Proche-Orient ancien, le partage d'un repas était une métaphore religieuse bien connue, notamment dans le contexte de la guerre divine. Habituellement, quand la guerre était gagnée, les dieux se rassemblaient et célébraient la victoire avec un grand banquet. Quelques exemples peuvent être cités pour illustrer ce point. Dans Enuma Elish, un récit épique mésopotamien sur la création, un grand banquet suit le triomphe et la succession du roi de Marduk. Et dans la littérature ougaritique, elle offre un banquet pour honorer Baal. Ces similarités évoquent peut-être simplement des occasions où les gens célébrèrent certains succès par un repas, mais les prophètes utilisent le thème du banquet dans un contexte bien particulier. En effet, même si les caractéristiques majeures de ces récits sont similaires, la nature et le caractère de la divinité décrite dans les écrits prophétiques diffèrent des dieux du Proche-Orient ancien. Implications herméneutiques et théologiques. Comme nous l'avons souligné ci-dessus, cette brève étude a mis en évidence un certain nombre de parallèles entre la littérature prophétique biblique et les textes non bibliques du Proche-Orient ancien. Ces parallèles, qui peuvent être l'emploi d'expressions, de thèmes ou d'images similaires, nous encouragent à réfléchir sur leurs implications concernant l'inspiration et l'autorité des Écritures. Une approche erronée du lien entre les prophètes et le contexte proche-oriental peut nous pousser à considérer le message prophétique comme un simple reflet de cette culture, ou comme un produit isolé, déconnecté de son contexte historique. Pour éviter ces deux extrêmes, il est nécessaire de définir un mode d'interprétation permettant d'expliquer ces similarités et ces parallèles, et de prendre au sérieux l'inspiration, l'autorité et l'unité des Écritures. Les trois points suivants prennent en considération les parallèles mis en évidence précédemment et proposent un mode d'interprétation. Une expérience commune. Il semble évident que certains parallèles font partie d'un ensemble d'expressions et d'images que les prophètes utilisaient en raison de la culture proche-orientale dans laquelle ils baignaient. Ainsi, ces expressions et ces images faisaient peut-être partie de leur vocabulaire, et ils n'avaient pas nécessairement l'intention de faire référence à des textes ou à des idées des nations avoisinantes. On peut notamment citer l'emploi de certains termes et de certaines expressions à la fois en hébreu et en langage ougaritique. Ces expressions n'étaient pas propres à une seule langue, mais étaient utilisées dans plusieurs langues sémitiques. Parfois, l'expérience humaine universelle peut expliquer certaines similarités. Partager un repas après une victoire, par exemple, était une expérience vécue dans toutes les cultures du Proche-Orient ancien. Les Israélites vivaient dans cet environnement. Et il était naturel pour eux de considérer que la victoire eschatologique de Dieu pouvait être suivie d'un banquet de fête. Et comme Dieu se révélait grâce aux prophètes, il les laissait utiliser une langue, des métaphores et des images de leur temps afin de transmettre une vérité universelle. Cependant, dans certains cas, l'évocation de certaines images révèle une intention rhétorique. Dans d'autres cas, les prophètes utilisèrent peut-être le langage et les images de la propagande royale assyrienne dans le but de décrire les effets dévastateurs de l'invasion assyrienne dans Juda. Les personnes vivant à cette époque, connaissant certainement ces éléments de langage, l'effet rhétorique devait contribuer à rendre le message plus fort. Dans d'autres cas, les prophètes employèrent peut-être ce langage dans un but polémique, à savoir pour appliquer au Seigneur ce que les rois païens s'appliquaient à eux-mêmes. Il était évident pour les prophètes que la puissance et la gloire que les rois païens s'attribuaient ne revenaient qu'au Seigneur. Ainsi, Ésaïe utilisa le langage et les images des annales assyriennes, parlant de la gloire du roi, pour souligner la gloire de Dieu. Puisque ces rois se décrivaient comme des lions ou des chasseurs de lions, certains prophètes employèrent cette image pour formuler leur message. Osée décrit le Seigneur comme un lion s'en prenant au peuple, ce qui est une référence ironique au roi assyrien qui allait être un instrument de Dieu pour juger son peuple. Bien que le roi assyrien se considérât comme un lion attaquant sa proie, le prophète utilisa son langage pour décrire le Seigneur comme le lion suprême. Il est intéressant de noter de quelle façon Nahum utilisa l'image du lion dans son message au sujet de l'Assyrie. Manifestement, il savait que le roi assyrien se considérait comme un lion et un chasseur courageux, et il renversa le sens de ses paroles flatteuses contre le roi lui-même. En utilisant une image étrangère de cette façon rhétorique, le prophète lui donna une dimension théologique majeure. En effet, la gloire et la puissance que s'attribuaient les rois païens n'appartiennent qu'au Seigneur. De plus, comme le montre Nahum, les rois d'Assyrie affirmaient être des lions, alors Dieu allait les punir comme des lions, mais pas de la façon dont les Assyriens se voyaient. Ils seraient en effet comme des lions, à savoir la proie de chasseurs. Ce retournement de situation est en fait une justice poétique. Même quand les images sont utilisées pour exprimer le jugement de Dieu contre son peuple, le but est de mettre l'accent sur la souveraineté de Dieu. En dépit des apparences, c'est Dieu qui contrôle les événements et qui finira par détruire le mal et mettre fin à la souffrance et au péché. Nous pouvons donc noter que les allusions ou les références à des documents non bibliques ou à certaines de leurs expressions et de leurs images ne vont pas dans le sens des positions théologiques de ces documents, mais communiquent la vérité de façon plus efficace. La révélation générale. Certaines similarités ne peuvent être expliquées uniquement grâce aux arguments de l'expérience commune ou de l'intention rhétorique. En effet, certains parallèles concernent des thèmes et des concepts théologiques comme l'alliance, le temple et la royauté, qui sont des éléments importants de la littérature prophétique et de la Bible en général. Des concepts théologiques comme le grand conflit entre le bien et le mal ou la guerre au ciel apparaissent également dans certains textes du Proche-Orient ancien. Plus précisément, comme cela a été souligné précédemment, certains textes expriment l'espoir d'un monde et d'un roi parfait d'une façon qui évoque des passages messianiques. L'un des parallèles frappants est celui qui décrit la destruction du serpent et de la mort, qui rappelle l'évocation prophétique de ces sujets. Avant de proposer une explication pour ces similarités, il convient de mentionner les différences majeures qui existent entre la perception prophétique de la réalité et la perception du monde telle qu'elle est présentée dans les textes non bibliques. Tout d'abord, il faut souligner que la littérature prophétique aborde les thèmes théologiques que nous venons de mentionner comme un ensemble cohérent lié au conflit entre le bien et le mal, ce qui lui donne de la cohérence et du sens. En revanche, la littérature proche-orientale est fragmentaire, et les parallèles mentionnés précédemment proviennent de différentes cultures et de différents lieux. Il est difficile de dire si un seul peuple, en dehors d'Israël, ou un seul ensemble littéraire, en dehors de l'Ancien Testament, pourrait proposer tous ces thèmes pour exprimer des croyances religieuses. Deuxièmement, la différence entre la description de Dieu dans la littérature prophétique et celle des dieux dans les textes non bibliques ne doit pas être minimisée. Pour les prophètes de la Bible, Dieu était le Créateur et le Rédempteur parfait, aimant et juste. D'un autre côté, les divinités décrites dans la littérature non biblique étaient soumises aux forces impersonnelles du cosmos et sont souvent décrites comme étant capricieuses, instables émotionnellement, peu fiables et souvent en conflit les unes avec les autres. Ainsi, même si apparemment certaines similarités apparaissent entre les thèmes et les images utilisées, la perception de Dieu dans les deux genres littéraires conditionnait la façon dont ces thèmes étaient abordés dans chaque culture ou au sein de chaque peuple. Cela étant dit, il convient de proposer une explication justifiant ces similarités. Tout d'abord, nous devons exclure la possibilité que les textes non bibliques se soient inspirés des textes bibliques, parce qu'ils leur sont antérieurs. D'autre part, le fait de dire que les auteurs bibliques, ou les prophètes, aient simplement emprunté certaines idées aux textes ou aux traditions non bibliques, n'est pas cohérent avec la valeur que nous attribuons à la Bible et contredit l'idée de l'inspiration de Dieu. Ainsi, nous suggérons deux idées complémentaires permettant d'expliquer les similarités théologiques et thématiques mentionnées ci-dessus. Premièrement, certains de ces parallèles ont peut-être été voulus par Dieu. Un auteur a déclaré « Dans sa souveraineté et la façon dont il, Dieu, veille sur le cours de l'histoire et le développement des cultures des hommes, il a permis qu'un certain nombre de parallèles soient faits entre les concepts théologiques et les pratiques de la culture proche-orientale et la culture biblique. Ainsi, nous pouvons raisonnablement penser que Dieu a dirigé l'histoire d'une façon particulière afin que certaines vérités ne se perdent pas. De plus, Dieu est peut-être intervenu dans certaines situations telles qu'elles sont apparues dans l'histoire humaine afin qu'elles puissent être un moyen efficace de proclamer au monde le message du salut. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Alliance. Largement utilisée dans le monde antique pour établir un contrat, un pacte ou un compromis entre des rois, des peuples ou des individus, l'alliance est devenue une façon appropriée de définir la relation entre Dieu et son peuple. En fait, bien avant que les théologiens ne découvrent les documents montrant que l'Alliance était une institution du Proche-Orient ancien, Ellen White avait fait ce commentaire significatif au sujet de l'Alliance de Dieu avec Abraham. L'Éternel condescend à contracter une alliance avec son serviteur, en employant les formes usuelles de l'époque pour confirmer ce contrat solennel. On peut dire la même chose au sujet de la royauté. L'institution humaine de la royauté comportait de nombreux défauts et fut bien souvent un moyen d'oppression et d'aliénation. Ainsi, certains textes non bibliques anciens expriment l'espoir d'un roi idéal. Cependant, en dépit de son imperfection, Dieu utilisa cette métaphore pour évoquer sa façon parfaite et bienveillante de diriger son peuple et pour annoncer, par l'intermédiaire des prophètes, la venue d'un roi messianique idéal. Par conséquent, nous pouvons dire qu'en dépit des effets dévastateurs du péché sur les êtres humains et leurs institutions, Dieu a permis ou guidé la création de certaines de ces institutions afin de faire connaître certains aspects du plan du salut. Deuxièmement, nous devons également considérer les similarités présentées dans cette étude selon une perspective différente. Certains parallèles peuvent être mieux expliqués en évoquant une origine commune, notamment concernant certaines correspondances thématiques et structurelles, comme le conflit entre le bien et le mal, la fin du mal et la résurrection. Certaines vérités majeures que connaissaient Adam, Ève et les patriarches ont été transmises de génération en génération au sein du peuple de Dieu jusqu'à ce qu'elles soient finalement développées dans les Écritures. De plus, les Écritures elles-mêmes déclarent que certaines vérités étaient connues des patriarches. Par exemple, Énoch prêcha le retour du Christ, Jude verset 14, et Abraham savait ce qu'était la cité céleste, Hébreux 11 verset 10. De la même façon, Ellen White affirme « À Adam furent révélés d'importants événements à venir, portant sur son expulsion du jardin d'Éden, sur le déluge et la première venue du Christ sur la terre. » Dans son amour pour Adam et sa postérité, le Fils de Dieu consentirait à revêtir la nature humaine et, par son humiliation, il élèverait tous ceux qui croiraient en lui. Il semble clair que certaines vérités essentielles étaient connues depuis le jardin d'Éden. Et même ceux qui rejetaient la souveraineté de Dieu se remémoraient certains éléments de la vérité, même si celle-ci était déformée par le polythéisme et l'idolâtrie. Par conséquent, certains des parallèles mentionnés précédemment peuvent être expliqués par le fait que la religion d'Israël et des nations environnantes ont une origine commune qui remonte au jardin d'Éden et aux patriarches. Ainsi, en dépit de certaines similarités et ressemblances avec les textes non bibliques, la Bible ou la littérature prophétique reste unique dans la mesure où elle contient la révélation de Dieu qui n'a pas été déformée par les traditions humaines. L'une des implications herméneutiques importantes de cette affirmation est le fait que l'Écriture est le critère normatif permettant d'évaluer la dimension théologique des textes non bibliques, voir 2 Timothée 3, verset 16. Et concernant l'interprétation de l'Écriture, même si l'étude de textes non bibliques peut éclairer certains aspects de la Bible, c'est la Bible elle-même qui est le meilleur outil pour sa propre interprétation. Résumé et conclusion. Comme nous l'avons souligné, une étude comparative de la littérature prophétique et des textes non bibliques du Proche-Orient ancien révèle un certain nombre de parallèles dans les expressions, les images et les concepts théologiques utilisés. Bien que non exhaustive, les observations qui viennent d'être faites peuvent s'appliquer à d'autres parallèles qui ne sont pas abordés dans cette étude. Nous pouvons donc résumer et conclure ainsi cette étude. 1. Bien qu'il ne soit pas possible de faire un lien direct de dépendance littéraire, les parallèles mentionnés ci-dessus appartiennent à diverses catégories et sont manifestes dans les expressions, les images et les thèmes théologiques évoqués. 2. Dans certains cas, les circonstances historiques, le contenu et le langage des textes prophétiques peuvent suggérer que les auteurs bibliques connaissaient certainement les textes non bibliques, ou certaines versions de ces textes, et y firent intentionnellement référence dans un but rhétorique ou polémique. 3. Ces parallèles suggèrent que les prophètes connaissaient bien certains textes et certaines idées des nations environnantes et qu'ils les utilisaient de façon à remettre en question les idées religieuses qui n'étaient pas conformes avec la révélation de Dieu. 4. Dans le cas des thèmes comme la résurrection et l'espoir messianique, nous avons noté que certains parallèles peuvent avoir été voulus par Dieu en vue de révélations ultérieures, alors que d'autres peuvent remonter aux révélations faites à Adam, à Ève et aux patriarches. Cela implique que les écrits prophétiques proposent un récit authentique et précis des révélations divines, alors que les sources non bibliques préservent la mémoire de ces révélations de façon déformée. 5. Bien que les textes non bibliques nous permettent de mieux comprendre certains aspects de la Bible, celle-ci leur est supérieure du point de vue herméneutique et théologique et est la norme permettant de les évaluer. Par ailleurs, même si les sources non bibliques peuvent nous aider à comprendre la Bible, en réalité, la Bible s'interprète par elle-même.